Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. Le choc et la tristesse à Manchester. Les témoignages des rescapés de l'attentat dans la Manchester Arena hier soir après un concert sont glaçants. 22 personnes sont mortes dans l'explosion, 59 sont blessées. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis 12 ans au Royaume-Uni. Une veillée a eu lieu ce soir dans la ville. Des centaines de personnes s'y sont recueillies. Nous serons en direct avec Julie Pietri, notre envoyée spéciale. L'attaque a été revendiquée en début d'après-midi par le groupe État islamique. Le kamikaze, un Anglais de 22 ans, a été identifié. Qui était-il? A-t-il agi seul? Élément de réponse avec Bertrand Galichet. Et puis nous serons également en direct avec Adam Sage, il est correspondant au Times à Paris. Dans le reste de l'actualité en France, Emmanuel Macron noue le dialogue social. Il a reçu toute la journée les représentants des syndicats et du patronat pour évoquer la réforme du marché du travail. Et puis nous retracerons la carrière d'un grand acteur, Roger Moore, est mort à l'âge de 89 ans. Des enfants, des adolescents, leurs parents qui sortaient de la salle de concert, de la musique plein la tête, quand l'horreur survient. Hier soir, une puissante explosion dans le hall de la salle de concert, la Manchester Arena tue 22 personnes, en blesse une soixantaine. Manchester touché par un attentat le plus grave depuis 12 ans au Royaume-Uni. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, le kamikaze a été identifié. On fera le point sur l'enquête dans un instant, mais d'abord, on retrouve Julie Pietri en direct de Manchester. Bonsoir.
Bonsoir.
Le choc, l'émotion est vive dans cette ville du nord de l'Angleterre. Des habitants qui se sont retrouvés tout à l'heure pour une veillée, Julie.
Sur la place, il ne reste actuellement que quelques groupes de personnes à l'ombre des antennes satellites, des camions télé. Quelques musiciens assurent l'ambiance de fin de soirée et les cafés alentours se sont remplis un temps comme pour prolonger la soirée. Mais quel rassemblement ça a été. Une place qui débordait vraiment, tellement de monde qu'il était impossible de bouger. Des milliers de personnes attentives aux discours et messages diffusés qui criaient ensemble, applaudissaient ensemble, se taisaient aussi ensemble. Un message répété au micro avec toutes ces personnes à Manchester qui disait la même chose. C'est la ville du rock, c'est la ville du foot, une ville généreuse, chaleureuse, festive et unie, où des restaurateurs offrent à manger et à boire aux policiers, journalistes et habitants mobilisés. Une ville qui ne changera pas, promettent ses habitants, même si c'est la jeunesse et l'enfance qui ont été visées hier soir. Alors la place se vide en ce moment, mais reste des stigmates, comme on en a tant vu ailleurs après un attentat, des fleurs, des bougies et ici aussi des peluches.
Merci Julie Pietri, vous étiez en direct de Manchester avec les moyens techniques de Pierre Quintard. L'attentat, je vous le disais, a été revendiqué en début d'après-midi par le groupe État islamique et l'auteur de l'attaque, Bertrand Galichet, a été identifié.
Il s'appelait Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne, né à Manchester de parents réfugiés qui avaient immigré au Royaume-Uni pour fuir le régime de Kadhafi. Salman Abedi faisait partie d'une fratrie de 4 enfants, tous nés en Grande-Bretagne. NBC News donne quelques précisions sur le mode opératoire du kamikaze. Il portait sa bombe artisanale dans un sac à dos et aurait attendu dans la zone d'achat des billets de la Manchester Arena que les spectateurs commencent à quitter la salle afin de se trouver au milieu de la foule. Par ailleurs, les enquêteurs ont interpellé un homme de 23 ans. La police ne donne pour l'instant aucune autre précision sur cette arrestation. Manifestement, on cherche à savoir si Salman Abedi, qui a trouvé la mort dans l'explosion, a agi seul ou s'il a bénéficié de complicité, voire d'un réseau qu'il faut identifier d'urgence. C'est donc le groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat, mais les éléments fournis par l'organisation terroriste évoquent des engins explosifs déposés au milieu de ce qui est appelé un rassemblement de croisés, une version qui ne coïncide pas avec la réalité de l'attentat, une seule bombe semble-t-il portée par le kamikaze.
Les précisions de Bertrand Galichet, cet attentat est donc le plus meurtrier depuis 12 ans au Royaume-Uni. Bonsoir Adam Sage.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant du Times à Paris. Votre pays est choqué. Ça ravive dans les esprits le cauchemar des attentats de 2005 dans le métro londonien.
Oui, bien évidemment, c'est une nouvelle horreur, presque pire, vu l'âge, la jeunesse des victimes, beaucoup de jeunes filles. Donc oui, vraiment, c'est une très grande émotion, un très grand choc pour la Grande-Bretagne.
C'est un symbole de toucher la Manchester Arena?
Oui, vous savez que c'est la plus grande salle de concert d'Europe, évidemment la plus grande salle de la Grande-Bretagne. C'est un symbole de par sa taille, de par sa situation vraiment au centre de Manchester, dans le quartier des magasins, des commerces, et aussi sans doute un symbole par le public qui assiste au spectacle. Comme j'ai dit, ce public très jeune, beaucoup de jeunes filles, donc c'est terrible.
Vous vivez à Paris depuis longtemps, Adam Sage. Vous avez connu les attentats de Paris, des attentats qui ont aussi touché la jeunesse, qui profitait de la vie. Il y a une veillée ce soir à Manchester qui a rassemblé des milliers de personnes. Pensez-vous qu'il y aura d'autres rassemblements comme en France en 2015?
Je pense que de toute manière, oui, exactement, c'est quelque chose qui va marquer la société britannique comme le Bataclan et les attentats de novembre 2015 ont marqué la France. On sent que peut-être on bascule dans une nouvelle ère, la France, une nouvelle ère de terreur que la France a connue depuis 18 mois. Je pense que quelque chose effectivement a changé aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il y aura sans doute d'autres événements, d'autres rassemblements, d'autres marques de solidarité nationale dans les jours à venir. Oui.
Concernant l'enquête, Theresa May, la première ministre britannique, a indiqué que l'assaillant avait été identifié ce midi, sans donner le nom. On l'a su finalement vers 18h. En France, on a très vite des éléments. Les Anglais sont plus prudents.
Le nom est sorti des États-Unis, des médias américains, sans doute par les services américains. Je pense que la police britannique ne voulait donner très très peu de détails, même ce matin, voulait donner peu de détails sur les hôpitaux dans lesquels les victimes avaient été soignées. Je pense qu'il y a une prudence, je pense qu'il y a aussi, de la part de la police britannique, une volonté d'enquêter sans que les journalistes soient à leur trousse, sans doute, et d'enquêter dans la discrétion. Évidemment, le nom est sorti maintenant des États-Unis, donc cette discrétion-là est un peu d'être, mais oui, visiblement, la police britannique veut donner un minimum de détails pour l'instant.
Prudence, oui. Depuis des mois, notamment depuis l'attentat, il y a deux mois tout juste, sur le pont de Westminster à Londres, les autorités britanniques répétaient qu'un attentat était hautement probable. La sécurité avait-elle été renforcée ?
Dans la vie quotidienne, assez peu en réalité. On n'était pas du tout au stade que vous connaissez en France, avec des fouilles presque systématiques dans les grands centres commerciaux. Il y avait des gardes de sécurité présents, mais à Londres, que je connais, on entrait dans les centres commerciaux sans que les sacs soient ouverts et cherchés. Je crois que dans les théâtres, ça commençait un peu. Mais comme je dis, dans la vie quotidienne, il n'y avait pas depuis deux mois une augmentation visible et nette de la sécurité quotidienne. Peut-être ça va arriver maintenant.
Comment ça s'explique alors que justement les autorités britanniques s'attendaient justement à un nouvel attentat ?
Je pense que ça fait longtemps qu'on se doute qu'il y aura un attentat en Grande-Bretagne. Nos services ont été plutôt efficaces en empêchant des attentats jusque-là. Il y avait un certain fatalisme que tôt ou tard il y aurait un attentat. Comme en France, c'est après l'attentat que la sécurité est augmentée. On a vu ça avec le Bataclan, il y avait une prise de conscience après. Je pense que dans toutes les sociétés démocratiques, c'est très difficile de mettre en place ces mesures de sécurité très très strictes, comme les fouilles à l'entrée des centres commerciaux avant les attentats. Peut-être c'est une faille de nos démocraties, mais c'est ainsi. Donc c'est facile de critiquer après coup, dire qu'on aurait dû faire plus. Dans les concerts, de toute façon, la sécurité était assez stricte. Ceux qui ont assisté à des grands concerts en Grande-Bretagne, ceux d'Anty, l'ont dit qu'on était fouillés. Les sacs étaient regardés. À l'entrée de Manchester Arena hier. Mais visiblement, le terroriste, il avait pris ça en compte. Il avait une stratégie pour défaire de cette sécurité-là en arrivant à la fin. Le risque zéro n'existe pas, n'est-ce pas, hein?
Merci Adam Sage d'avoir été notre invité ce soir sur France Culture. Je rappelle que vous êtes donc correspondant du Times basé à Paris. Après l'attentat de Manchester, les condoléances affluent de toute la planète. La chancelière Angela Merkel a fait part de sa tristesse et de son horreur, l'effroi et la consternation pour Emmanuel Macron. Donald Trump a qualifié les terroristes de losers, tellement de jeunes gens magnifiques et aimant la vie assassinés par des losers malfaisants, a-t-il déclaré depuis Bethléem en Cisjordanie. Le président américain qui a terminé sa visite au Proche-Orient. Il a rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il a promis d'œuvrer à la paix au Proche-Orient sans être très concret. Le président américain n'a pas non plus clarifié sa position sur la solution à deux États. Prochaine étape de sa tournée mondiale demain, il sera reçu par le pape au Vatican. Il avait admis que son réveil avait été tardif face aux abus sexuels commis par des prêtres. L'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, est cité à comparaître en septembre devant le tribunal correctionnel de Lyon. Lui et 6 autres personnes citées pour ne pas avoir dénoncé à la justice des agressions de pédophilie au sein du diocèse. L'affaire avait été classée, mais 10 victimes ont décidé de porter ce recours. Des victimes du père Prénat, mises en examen en janvier l'année dernière. Journée sociale pour Emmanuel Macron. Il a reçu un à un les représentants des organisations syndicales et patronales aujourd'hui. Des entretiens pour lancer sa réforme du Code du travail qu'il entend mettre en place rapidement par ordonnance. Demain, c'est au tour du Premier ministre et de la ministre du Travail de les recevoir syndicats et patronats. Les précisions d'Annabelle Grelier.
C'est donc dans ces réunions bilatérales que les syndicats devraient peu à peu connaître les détails du programme social de cette fin d'année. Bien sûr, la priorité, c'est la loi travail. Son calendrier d'abord. Selon le patron de la CPME, François Asselin, le chef de l'État lui aurait annoncé une grande concertation jusqu'à mi-juin, avant une loi d'habilitation à légiférer par ordonnance durant l'été, puis une loi de ratification des ordonnances courant septembre. Une information que n'avaient pas réussi à glaner les syndicats de salariés reçus le matin, qui pensaient c'est au contraire avoir compris, comme Philippe Martinez de la CGT, que ce calendrier pouvait encore bouger, y voyant plutôt une bonne chose. Le président Macron aurait donc été assez habile pour rester flou sur les sujets qui fâchent, laissant penser par exemple à Jean-Claude Mailly qu'il y avait des marges de manœuvre, notamment sur le plafonnement des indemnités prud'homales, ou encore que rien n'était ficelé, comme croyait aussi savoir Philippe Louis de la CFTC à la sortie de l'Élysée. Mais Emmanuel Macron sait aussi être plus précis quand il s'agit de rassurer, notamment les petites entreprises. Il a satisfait le patronat en confirmant à la CPME qu'il y aurait un moratoire sur le compte pénibilité et sur la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Dernier point qu'Alain Griset de l'UDP semblait pouvoir confirmer à son tour après son entretien avec le président.
Les salariés de GMES devront encore patienter jusqu'à demain. Le tribunal de commerce de Poitiers a examiné cet après-midi la situation de l'équipementier automobile creusois en redressement judiciaire et rendra donc sa décision demain. L'avocat des salariés estime probable une prolongation de la période d'observation. Il incarnait l'image du parfait gentleman britannique, regard ténébreux, costume impeccable. Roger Moore est mort, l'acteur avait 89 ans et souffrait d'un cancer. Le Saint, James Bond entre autres, il a interprété des rôles mythiques à la télé et au cinéma. Retour sur une vie bien remplie avec Eva Bétain.
Brett Sinclair et Danny Wilde, Roger Moore et Tony Curtis, le lord milliardaire et l'américain enrichi d'origine modeste, les deux faisant la paire et jouant les redresseurs de tort au volant de belles voitures Aston Martin pour Brett Sinclair et une Dino 246 GT construite par Ferrari pour Danny Wilde. Amicalement vôtre, c'était au début des années 70, bien avant la folie des séries, mais ça a été culte. Roger Moore doit beaucoup à la télévision. Auparavant, il avait joué dans Le Saint, il interprétait Simon Templar, une sorte d'aventurier Robin des Bois. Il était célèbre, à l'aise pour jouer les héros récurrents. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à remplacer Sean Connery quand celui-ci s'est lassé d'être 007. L'élégance british, après la séduction virile et ténébreuse de Sean Connery, il fallait oser, il l'a fait. Bond, My Name is Bond. James. En une douzaine d'années, il tourne 7 James Bond, à égalité tout au moins rythmétique avec Sean Connery, les fans gardant la nostalgie des origines. Wow. Il apporte au rôle un autre genre de flegme, une élégance de fils de bonne famille. Quelques titres des James Bond avec Roger Moore, Vivre et laisser mourir, Octopussy, Dangereusement vôtre. Ce succès a eu son revers, le reste de sa carrière n'a pas été de même envergure. Cela n'a pas entamé néanmoins sa popularité. Avoir été James Bond assure des fans qui se renouvellent à chaque génération.
Roger Moore avait 89 ans, son plus grand rôle, il estimait qu'il l'avait tenu pour le compte de l'UNICEF. Il avait notamment été nommé ambassadeur itinérant du Fonds pour l'enfance des Nations Unies. Dresser le sourcil pour Bond était une chose, mais sensibiliser l'opinion pour la cause des enfants est beaucoup plus important, avait-il déclaré en 2003 lors d'une interview à la BBC. Le temps pour demain, une météo estivale, grand soleil partout, sauf quelques nuages dans le nord-ouest et le nord. Il fera à l'après-midi entre 22 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Nathalie Lopez.